Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Deuxième lecture qui viendra compléter ce texte de Matthieu, maintenant dans l'évangile de Marc. Un texte semblable, avec quelques détails de différence. Alors, verset 32. Ou on peut lire à partir du verset 30, ça n'a pas d'importance. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. C'est le Marc chapitre 6, hein? D'accord? Oui. Je suis rapide. Marc chapitre 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà pour cette seconde lecture, en fait, et qui nous parle, dans les deux cas, d'un troupeau sans berger. Alors, c'est peut-être une confusion, parce que le berger, sa mission et son état, c'est d'avoir des brebis et de les garder, de les panser, de les soigner, de les nourrir. Et puis, un troupeau qui n'a pas de berger, eh bien, c'est un troupeau qui s'égare. Jésus fera référence à plusieurs reprises des brebis, aux brebis, qui se dispersent. Et même dans l'Ancien Testament, il y a des textes fameux qui nous parlent, eh bien, de la dispersion des brebis dans le désert, et etc., etc. Donc, un troupeau sans berger. Quand on regarde le premier texte, d'abord, les disciples ont répondu à la mission du maître, parce qu'il nous est dit qu'ils sont revenus pour raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur avait dit, eh bien, allez maintenant vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, guérissez les malades, ressuscitez les morts, et puis, enseignez-leur la parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, ils sont partis. Et puis, quand ils sont revenus, ils étaient tout excités parce que, effectivement, ce que Jésus leur avait dit, c'est accompli. À travers des signes, des prodiges, des miracles. Alors, Jésus avait certainement remarqué qu'ils étaient retournés vers lui avec beaucoup d'excitation parce que on le serait à moins lorsque véritablement on voit la puissance dont ils étaient les dépositaires, cette puissance divine, et de voir les malades guéris, les morts ressuscités, et toutes ces foules, eh bien, qui se pressaient auprès d'eux. Ça, c'était qu'en quelque sorte, nous pourrions dire une avant-première. Parce que, quelque temps plus tard, eh bien, ce sera eux qui seront en première ligne. Et là, non pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour le monde entier. Alors, ils partiront. Ils partiront sur tous les continents, ils partiront jusqu'aux extrémités de la terre avec un message, comme Jésus leur dira, et les mandatera, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alors celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, etc., etc. Alors ils sont revenus de cette première mission, ils étaient tout certainement, excusez-moi, tout excités. Et Jésus avait certainement remarqué qu'ils avaient besoin, en effet, de repos. Oui, parce que il y a des choses qui sont certainement très très dynamisantes, hein, une excitation particulière, mais il y avait certainement beaucoup de fatigue aussi. Alors il leur a demandé de venir dans un lieu désert et de se reposer un peu. Comme quoi, eh bien, une chose qui est certaine, parce que la suite va nous le démontrer, c'est que, quel que soit, qui que nous soyons et quelle que soit la mission que nous accomplissons, nous avons besoin des temps de repos. Et des temps, Seigneur, pour, en effet, eh bien, parfois nous poser un petit peu. Alors, c'est ce qui se passe. Ils sont venus à l'écart et puis, il nous est simplement précisé qu'il y avait tellement de monde. À ce moment-là, des allants et des venants, des gens qui circulaient un peu dans tous les sens, qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors, ça peut durer qu'un temps. Et ça ne dure pas tout le temps. Et la nécessité du repos qui nous est enseignée dans cet évangile, et combien de fois d'ailleurs dans toute la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament compris, eh bien est quelque chose qui est tout à fait raisonnable et raisonné de la part de Dieu si nous voulons aller jusqu'au bout. Et ça c'est important. Alors ils sont donc partis dans une barque pour aller à l'écart, confirmant eh bien ce qui est écrit un petit peu plus loin, et particulièrement dans un lieu désert. Mais ils ne sont pas restés dans l'isolement très longtemps, puisqu'il nous est dit qu'il y avait des gens qui les ont reconnus, qui les ont vus partir et qui avaient contourné finalement le lac et qui étaient déjà même avant l'arrivée de Jésus, qui traversaient donc dans une barque. Alors, il nous est simplement rappelé cette parole sur laquelle nous allons méditer maintenant. Il nous est dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà. Ça, c'est ce que l'évangéliste Marc saisit à ce moment-là, où Jésus va vraiment manifester quelque chose qui est le propre, eh bien, de Dieu, c'est-à-dire la compassion. Et quelle différence pouvons-nous faire entre la puissance de Jésus et son amour et sa compassion? Je dis qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'amour. Et Jésus a été véritablement touché profondément de voir des gens qui se pressaient, qui venaient et qui se présentaient à lui à des heures indues, puisque le soir va bientôt tomber, et qui sont là avec mari, femme, enfant, et tous les villages se sont rassemblés dans ce lieu, qui va donner l'occasion à la multiplication des pains. Où là, eh bien, Jésus va faire la démonstration qu'il ne s'intéresse pas non seulement dans sa compassion, ou que sa compassion ne se porte pas uniquement sur les besoins spirituels et moraux des hommes, mais également sur leurs conditions physiques, puisqu'il va leur donner de manger du pain et des poissons à satiété, en faisant ce grand miracle, donc de la multiplication. Alors, je reviens sur ce texte, il nous est parlé de cette grande foule. Alors, dans cette foule, il y avait probablement des gens bien portants. Il y avait probablement des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, il y avait certainement des malades de toutes sortes. Et ils étaient venus, hein. Et beaucoup plus difficile de se déplacer quand on n'est pas bien, quand on est malade. Mais ils sont venus quand même. Et Jésus a remarqué cette chose. Il a remarqué, en effet, cette foule. Et là, eh bien, son cœur a été complètement bouleversé. C'est pour nous dire que la primauté que nous trouvons dans le caractère même de Dieu, une de ses vertus divines, c'est vraiment la charité, l'amour, ému de compassion, c'est-à-dire une souffrance. Remarquer une souffrance pour tous ces gens qu'il avait devant les yeux. Et il regardait ici, il regardait là, il y avait probablement des aveugles, des estropiés, des paralytiques, enfin toutes sortes de choses et des mots peut-être qui ne se voyaient pas mais qui pouvaient se deviner sur le visage finalement de cette foule si nombreuse. Et l'association qui est faite, et peut-être justement par-delà la misère humaine où Jésus était confronté, donc qu'il avait devant les yeux, eh bien il nous est donné l'explication, ému de compassion parce qu'ils étaient. Voilà, ils étaient malades, ils étaient souffrants, ils étaient dans l'infortune. Mais il y a une chose qui va frapper Jésus, c'est qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils étaient comme des malades qui n'avaient point de docteur. Ils étaient comme un peuple, eh bien, sans dirigeant, sans, eh bien, conducteur. Et c'est assez paradoxal parce que quand on connaît le contexte du judaïsme, et depuis les temps immémoriaux, enfin depuis Moïse en tous les cas, depuis Moïse, eh bien, Dieu avait structuré cette nation, ce peuple élu, avec tout ce qui était nécessaire pour que cette nation d'Israël puisse vivre dans les conditions les meilleures. Il y avait une hygiène alimentaire, il y avait une hygiène corporelle. Et puis il y avait également pour l'âme et pour l'esprit, eh bien, toute une structure à travers les lévites, à travers les sacrificateurs, à travers la réparation des chutes morales, à travers les égarements spirituels. Tout avait été prévu. Et on pourrait s'étonner parce que Jésus va véritablement, eh bien, remarquer qu'ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, Moïse, ou Dieu à travers Moïse, avait donné des lois. Et ces lois étaient faites pour éduquer un peuple. Vous savez, pendant 430 ans, le peuple hébreu en Égypte était réduit à un peuple d'esclaves, un peuple en esclavage, dans la servitude. Et ils n'avaient pas appris les choses comme il fallait les apprendre. Ils avaient appris les choses à travers les coups, à travers, eh bien, des châtiments, à travers la mise à mort, parce qu'ils étaient considérés non pas comme des hommes, mais comme des sous-hommes que l'on utilisait pour bien faire les grands travaux d'Égypte, on le sait. Et la loi de Moïse, et pour tous ses principes de vie, ont été donnés à la nation pour qu'elle puisse comprendre un moment ou un autre qu'elle avait un Dieu, et un Dieu qu'elle devait suivre. Et Dieu avait donné à ce moment-là tout un sacerdoce. Il avait donné des hommes pour les conduire dans la vie de la foi, dans la vie morale, dans toutes sortes de choses. Et puis, le temps passant, eh bien, tout ça avait été gommé, disparu, et il ne restait plus rien du tout. À tel point que Jésus, quand il va faire son apparition en Palestine, dans sa venue, en tant qu'homme, en tant que sauveur, il va voir un peuple complètement désorganisé. Et pourtant, il y avait une organisation religieuse. Elle était religieuse, mais elle était plus spirituelle. Il y avait le temple, il y avait les synagogues. Il y avait toutes sortes de choses qui, normalement, mais il n'y en avait plus que les vestiges. On pourrait dire qu'il n'y avait plus que les ruines, parce que ça n'avait plus de valeur. Un fonctionnement religieux implacable, avec des lois, mais qui n'avait plus rien du tout, avec la spontanéité et la joie, finalement, de connaître Dieu et de lui obéir et de le servir, de lui faire confiance, tout simplement. Et quand Jésus dit ça, c'est assurément, eh bien, un défi qu'il lance à toutes ces autorités religieuses, toute cette structure qui n'a plus que le nom, mais qui en a perdu l'esprit. Et il dira, mais ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. On comprend que les autorités d'Israël, les autorités religieuses, les pharisiens entre autres, et puis les autres, eh bien, certainement ont reçu ça comme un défi, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre prédicateur là de Galilée, c'est un imposteur. Nous, nous sommes organisés, nous avons ceci et cela, et nous donnons au peuple ce qu'il a besoin, à travers des cérémonies, à travers du rituel, à travers de la tradition, etc., etc. Mais Jésus verra que derrière, il n'y a plus rien. D'ailleurs, si vous en souvenez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, il nous est dit que le grand jour de la fête, Jésus a prononcé ces paroles, là où il y avait le plus de monde à Jérusalem. Il dira, mais vous qui avez soif, venez à moi, et vous trouverez de l'eau, et de l'eau vive. Et il nous est dit un petit peu plus loin que Jésus annonçait ces choses en parlant du Saint-Esprit qui n'était pas encore venu, mais qui allait venir, pour désaltérer, pour nourrir un peuple qui était affamé. Alors si vous permettez peut-être une relation et une comparaison avec notre monde d'aujourd'hui, tout en étant chrétien de nom, tout en ayant ses messes, ses grands messes, ses cultes, ses cérémonies, etc., 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 ces pompes, comme il y en avait à Jérusalem, on s'aperçoit que notre monde n'a guère changé, n'a pas évolué, lorsque l'on voit la faim et la soif de nos contemporains, de nos concitoyens, qui se réclament peut-être du christianisme sincèrement, et qui meurent sur pied, qui meurent parce que, eh bien, leur cœur, leur âme et leur esprit n'est pas nourri. Oh, il y a tout, tout autour, il y a toute la structure, il y a tout ce qui est nécessaire, peut-être du tape à l'œil, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Vous arrivez, on vous présente une assiette qui est vide, parce qu'il y a des choses qui nourrissent et qui avaient été soustraites au peuple. Ou en tous les cas, si ça n'avait pas été soustrait au peuple juif du temps de Jésus, ça avait été modifié, ça avait été altéré, déformé, dénaturé, et vicié même. Pour qu'une chose bonne que Dieu avait déclarée, eh bien, elle devienne mauvaise et un véritable poison, excusez-moi. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a fait de l'Évangile? Qu'est-ce que l'on a fait de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on a fait du christianisme des premières heures? Eh bien, les gens, ils cherchent. Et ils sont là, à errer, Et on pourrait dire, à l'instar de Philippe, lorsqu'il rencontre l'eunuque, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ben oui, mais justement, c'est la question qui se pose encore aujourd'hui. Des gens en recherche, des gens qui sont malheureux, parce qu'ils sont confrontés avec des problèmes insolubles, ils sont confrontés avec des montagnes, ils doivent répondre parfois à des défis dans la vie, et puis, bah, tout en étant chrétiens, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas ce Dieu de toute puissance, ce Dieu qui est rempli de compassion pour eux, ce Dieu qui les cherche, mais dont ils n'entendent pas la voix parce qu'on leur a privé de se mettre en relation ou en contact, simplement, avec ce Dieu. Alors, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est un berger qui est en chômage quand il n'y a plus de troupeau. Ah oui. Alors, par les temps qui courent, c'est pas réjouissant, mais combien grande est la détresse sur le plan moral et spirituel, c'est certain. Et vous savez ce que Jésus dit ensuite, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vous savez, le travail d'un berger, c'est de nourrir un troupeau. C'est de lui donner de se substanter avec des pâturages gras, c'est-à-dire le meilleur, avec ce qui est véritablement, eh bien, absolument nécessaire pour des brebis, pour qu'elles croissent, pour qu'elles se développent, pour qu'elles se multiplient aussi. Et nous voyons que Jésus va revenir à l'essentiel, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ce qui fait vivre, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait vivre, c'est le message de l'Évangile, qui décline, du début jusqu'à la fin, les œuvres de Dieu. Œuvre de création, certes, mais plus encore, et le cœur même de l'Évangile, c'est l'œuvre de rédemption. Et Jésus leur a enseigné beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il leur a dit? On ne sait pas, ça s'arrête là, mais toujours est-il qu'il a dû remplir leur cœur. Après, ils ont eu faim de nourriture humaine, puisqu'il va faire la multiplication des pains. Mais toujours est-il que ces gens étaient venus parce qu'ils avaient vraiment de grands besoins. Donc, il leur a enseigné beaucoup de choses. On va prendre, si vous voulez, maintenant, et bien dans Matthieu, on va revenir. Et dans Matthieu, le texte est peut-être un petit peu... Excusez-moi. C'est un peu différent, mais on va le retrouver. Il nous est dit, donc, dans Matthieu chapitre 9, verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. » Donc, là, c'est lui qui va d'un lieu à un autre. « Et il enseignait dans les synagogues. » Voilà. Ça, c'est ce que nous avons vu à la fin de l'explication et des mobiles de sa compassion d'hommes, de femmes, sans direction, sans orientation et perdus. Donc, il enseignait dans la synagogue, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, la même chose, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Petite différence, mais qui est à relever dans ces deux textes mis en parallèle. D'abord, les pérégrinations de Jésus d'aller d'un lieu à un lieu, naturellement. Mais la priorité est donnée, là, dans l'évangile de Matthieu, au ministère d'enseignant. Jésus enseigne la parole. C'est lui qui apporte, comme nous l'avons vu précédemment dans Marc, eh bien, il donne en quelque sorte la nourriture qui va faire vivre les gens, qui va faire vivre ces foules, qui va les nourrir, qui va les substanter sur le plan moral et spirituel. Et il prêche la bonne nouvelle. Enseigner est une chose. C'est apporter un enseignement structuré, avec des bases. On pourrait peut-être parler des vérités fondamentales de la Bible, du royaume de Dieu, de la vie de Christ, qui amène au salut. Repentez-vous? Convertissez-vous à Jésus? Dieu va vous apporter la nouvelle naissance et vous serez baptisés du Saint-Esprit, donc la vie de Dieu en vous. Ça, c'est l'enseignement. Tous les enseignements qui rassemblent, eh bien, les textes autour de la foi, la puissance de la foi dont on peut s'approprier avec les promesses qui nous sont données. Ça, c'est l'enseignement. Nous le faisons souvent ici. Et puis, prêcher, c'est peut-être un petit peu plus ample, nous pourrions dire. On pourrait dire c'est proclamer, prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer, faites part à tout le monde, élevez la voix, allez, et eh bien, crier en quelque sorte. On pourrait l'approprier en faisant la différence entre l'enseignement et puis la prédication, prêchant la bonne nouvelle, et il guérissait les maladies, parce qu'il fallait que son enseignement, Et ça, nous le voyons parce que c'est une constante biblique quand on fait l'étude, que ce que Jésus enseigne, donc il pose les bases dans le cœur des gens. Et puis ensuite, eh bien, il les exhorte à prendre une décision, c'est-à-dire à se motiver, à engager leur volonté et à prendre une décision, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et puis ensuite, il guérit les malades, confirmation. Confirmation à la fois de l'enseignement que les gens ont reçu, la foi, par exemple. Et ensuite, eh bien, ça stimule, ça donne un élan à ses auditeurs. Et là, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Quelle confirmation, hein. On retrouve le même sens et le même processus dans l'évangile de Marc, dont je citais tout à l'heure. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voilà, le Seigneur était avec eux. Ils allèrent partout le monde et le Seigneur était avec lui en confirmant par des signes, des miracles et des prodiges. Ça, vous le retrouvez pratiquement partout dans la Bible. Et c'est quelque chose de formidable parce que qui peut parler mieux que celui qui était guéri, celui qui était délivré, en entendant le message de l'évangile, en disant « j'en ai fait l'expérience ». Et l'évangile, c'est pas une religion, c'est pas un credo, c'est pas une morale. Ça va beaucoup plus de cela. Et les uns et les autres que nous sommes, eh bien, nous pouvons dire pourquoi, aux questions qui nous sont posées, mais pourquoi j'ai accepté Jésus et pourquoi je suis chrétien aujourd'hui? Parce que j'ai prié, parce que j'ai entendu sa parole, j'ai été convaincu, et j'ai vu en priant que ce que je lui avais demandé, eh bien, il l'a accompli. Soit il m'a guéri, soit il m'a délivré, il a fait ceci d'une façon ou d'une autre, mais j'ai la conviction que Dieu est vivant et c'est pourquoi je suis chrétien. Alors c'est ce que Jésus faisait, enseignant, prêchant, guérissant. Jésus porte un regard sur la foule, comme précédemment, et il fut ému de compassion pour elle, dans une vision d'ensemble. Et il nous est dit la même réponse, parce qu'elle était, avec ses petits adjectifs, qui qualifient, parce qu'elle était languissante et abattue. Voilà. Est-ce que nous ne pourrions pas dire que notre monde, derrière tous ces ébats, ou ces débats, ou ces protestations, ou ces manifestations d'êtres vivants, n'est pas dans cette situation d'abattement et languissant. Alors si on veut rapprocher les mots, peut-être nous pourrions dire, dans un terme moderne, sans trop tirer sur le sens, la signification, mais la langueur. N'est-ce pas l'état de notre société d'aujourd'hui que nous pourrions appeler la dépression nerveuse? La langueur. Les gens n'ont plus envie de vivre. Les gens sont au bout du rouleau, passez-moi l'expression. Les gens n'ont que l'énergie, finalement, eh bien, de faire mécaniquement ce qu'ils sont obligés de faire autrement. Ouais, parce que les gens sont cassés, il y a quelque chose comme une mécanique à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se traînent, ils sont essoufflés, ils sont là, ils sont fatigués. Et c'est bien à ce titre que Jésus, portant aussi les mêmes regards dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, la charge qui écrase et la fatigue qui nous submerge, alors je vous donnerai du repos. » On en revient à ce que nous disions tout à l'heure quand il a demandé à ses disciples, certainement très exaltés des réussites de ce que la mission qu'ils avaient accomplie, mais fatigués quand même. Je ne sais pas si c'est, en effet, eh bien, quand il n'y a pas de résultat ou quand il y a des résultats que nous sommes le plus fatigués. C'est tout, hein, quand il n'y a pas de résultat. Hein. Vous savez, quand on fait les choses et que, on se décourage, mais quelquefois nous l'avons vu aussi, étant pris et dépassant peut-être nos propres capacités et nos propres limites, d'être complètement exténué parce que nous en faisons trop. Dans les deux sens, je voudrais le préciser encore, Jésus est l'équilibre même. Il est l'équilibre parfait, il sait que nous sommes des esprits renfermés dans un corps, et nous avons une âme qui peut elle aussi se fatiguer. C'est pourquoi il leur a dit, mais venez à l'écart. Ouais, dans un lieu désert, parce que là où vous êtes, si vous voulez vous reposer, vous n'allez pas vous reposer, il y a tellement de bruit. Jésus l'avait compris, alors si déjà il y avait du bruit, par les allants et les venants, les gens qui couraient de droite et de gauche, de ci, de là, je peux vous dire que dans notre société d'aujourd'hui, où on est tous branchés, enfin, tous. Comprenez, hein? C'est incroyable, hein? On ne peut pas vivre sans, finalement, eh bien, ce bruit, et quel bruit aussi, hein? Si c'était encore des choses qui étaient tonifiantes et vivifiantes. Mais, quelquefois, c'est fracassant, hein? Alors, on comprend que les gens soient fatigués. Et émus, donc, parce que cette foule était languissante et abattue, et la même réflexion, comme des brebis qui n'ont point de berger, des gens qui sont sans repère, qui n'ont même pas l'idée du principe qui régit eh bien notre monde, ou notre société, ou notre propre vie. J'ai quelques frayeurs pour les années qui vont venir, les décennies qui vont venir. Bon, pour la plupart d'entre nous serons ailleurs. Mais quand même, Vous savez, nous vivons dans un monde de trépidation. Oh, peut-être faut-il dire le mot, un monde endiablé. Et encore, on vit tranquille ici, hein, dans notre petite région. Mais tout le monde n'a pas la même faveur de vivre peut-être comme nous vivons. Si vous allez en Lozère ou dans la Creuse, je n'ai rien, parce que ce sont des beaux pays, mais là, vous êtes vraiment tranquille. Mais bon, peu importe. Alors voilà, languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus l'a vu. Et tout est dans le ressenti et dans l'édification que nous faisons avec la parole de Dieu ce soir alors que nous l'entendons. Est-ce que réellement je suis languissant? Quelle est la solution devant mes langueurs, devant mon asthénie, devant mes apathies où je n'ai plus tellement envie de grand-chose? Je fais encore parce qu'il faut le faire, c'est une obligation, autrement je ne vis pas, je ne mange pas. Mais autrement, il y a des gens qui sont cassés, la mécanique elle est complètement, on pourrait dire que ça déraillé, hein. Il y en a beaucoup comme ça, qui vivent comme des zombies, d'autant plus, lorsque, pour les aider à tenir leur rythme, eh bien, ils sont là sous un traitement médicamenteux pour leur donner un petit peu de... C'est dangereux tout ça, parce que ça n'a qu'un temps, vous comprenez? Jésus savait ça dans son temps. Alors, abattu, l'abattement, l'esprit abattu, le corps qui n'en peut plus. Et Jésus va dire cette parole, alors il dit à ses disciples... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est lié quand même à tout ça. Jésus avait certainement en perspective que sa mission terminée, c'est-à-dire dans le but ultime de sa crucifixion, donc de sa mort, mais également de sa résurrection, qui plus est suivie de son ascension, eh bien, cette grande œuvre, ce travail mondial, cette proclamation, cette prédication, ces enseignements, eh bien, seraient à la disposition du monde entier, mais il fallait des jambes, il fallait des mains, il fallait des bouches pour le porter. Voilà. Et il nous a donné ce qui était nécessaire pour cela, aller par tout le monde, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais si nous en sommes tout à fait conscients, comment une telle œuvre a pu se réaliser à partir du moment où Jésus, cette journée-là, a vu cette misère, a vu cet abattement, a vu cette désespérance, cette angoisse chez les hommes? Comment pouvait-il envoyer l'un ici, l'autre là, si celui-ci ou celui-là ou celle-ci ou celle-là n'était accompagné par une puissance que Dieu allait leur donner, leur envoyer, qui est le Consolateur, le Saint-Esprit? Et que l'on soit ici, que l'on soit aux antipodes, eh bien, à partir du moment où un homme ou une femme envoyé par Dieu, ouvrier dans la moisson, et rempli du Saint-Esprit, il fera le travail. Il le fera à sa manière, il le fera dans les formes que Dieu lui inspirera. Mais dans le fond, ça sera toujours le même message. Alors priez donc le Maître, parce que c'est ce qu'il nous est dit. Alors, la moisson est grande. Assurément, la moisson est grande, elle nous dépasse. Quelquefois, nous avons des chrétiens qui veulent sauver le monde entier. Ben, finalement, ils ne peuvent pas. On ne pourra jamais combler la mesure de misère et de détresse qu'il y a dans le monde entier. Parce que premièrement, notre temps est compté dans l'espace, dans notre espace-vie, puis nos forces sont limitées, puis nous ne pouvons pas être partout à la fois. Nous pouvons peut-être considérer la misère qu'il peut y avoir, alors déjà dans notre pays, mais si vous tournez les regards soit vers l'Afrique ou vers l'Asie, alors là, c'est étourdissant, hein. C'est terrible, c'est affreux. On est quelquefois saisi de compassion. J'ai eu l'occasion de regarder un reportage sur l'exploitation des femmes par les armées. Parce qu'on pourrait se dire l'armée. Les armées, ça a toujours été comme ça, hein, dans le monde entier, à travers l'Antiquité et puis dans les guerres passées, mais également aujourd'hui. Oh là là, ça vous donnerait à pleurer, hein, franchement. Parce que normalement, ce sont des gens qui sont là pour punir les méchants. Mais quand on voit que c'est organisé savamment, intelligemment, pour donner aux soldats tout ce dont ils ont besoin, alors là, c'est terrible. C'est affreux, hein. Il y a des choses comme ça dans notre monde. Et même perpétrées par les plus hautes instances internationales. C'est renversant. Ouais. Moi, je me mets à la place de tous ces gens qui sont exploités à des fins d'argent, iniques, innommables, Comment vivent-ils leur vie, ces pauvres gens? On leur a pas demandé, ils ont été kidnappés, ils ont été ceci et cela, et on les a obligés à faire des choses contre leur conscience. Je me dis, Seigneur, quand on regarde ce côté-là, ou quand on voit, par exemple, ces petits-enfants dans la corne de l'Afrique, qui n'ont rien à manger, ils sont squelettiques, et ils meurent dans les bras de leur maman. Seigneur, Jésus a été ému de compassion devant un tel spectacle. On parle quelquefois entre nous de l'Église persécutée, parce qu'il y a des chrétiens dans certains pays. Faut voir les maltraitances, faut voir ce qu'on leur fait subir, à eux et à leur famille, l'emprisonnement, voire la mort. Je me dis, Seigneur, comment tes regards, Dieu, peuvent-ils supporter une chose aussi impossible à nous imaginer, à considérer? Alors, la moisson est grande, elle est immense, cette moisson. Elle dépasse notre raison. Alors envoyez des ouvriers. Mais vous avez remarqué avec moi, Jésus ne dit pas « choisissez-en ». Vous allez en choisir quelques-uns selon votre bon jugement et vous allez les envoyer. Je voudrais vous dire que c'est pas les hommes qui envoient d'autres hommes. La réponse est prier. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous savez, toutes les religions qui ont voulu s'attacher à cette tâche et les religions chrétiennes ont reconnu, ont donné une onction sur un tel ou un tel, parce qu'ils ont été, avec un pressenti peut-être, aptes à faire, à rentrer dans ceci ou cela. Mais Jésus ne nous dit pas de nous choisir les uns les autres, et de dire, eh bien voilà, c'est Dieu qui choisit. Mais ce qui nous revient, c'est de nous, de prier le Maître, pour qu'il envoie des ouvriers qui seront habilités, remplis du Saint-Esprit, avec sa compassion, revêtus de la Toute-Puissante, pour aller vers ces brebis qui n'ont pas de berger. C'est pas autrement, hein. Et quand l'homme a voulu s'occuper de ses affaires qui ne le regardaient pas, je peux vous dire qu'il a bâti des religions d'hommes. Il s'est bâti un clergé, il s'est bâti un sacerdoce, qui n'ont pas été véritablement et bien mis en place. C'est l'institution qui l'a mis en place, mais c'est pas le Seigneur. Alors c'est ce qu'il nous a dit tout simplement. Des troupeaux sans berger. Vous savez que dans le prophète Ésaïe, et je vais terminer d'ici quelques instants, il nous a donné cette parole, parce que je crois qu'elle est au cœur même de l'annonce préalable de l'Évangile. Il nous a dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus, le vrai berger, le grand berger, le seul berger, l'iniquité de nous tous. Et il a fallu qu'il soit maltraité et opprimé, qu'il ne dise rien et qu'il assume, finalement, par compassion pour un monde perdu, eh bien, et qu'il prenne, à travers ses souffrances, nos maladies, et tout ce qui va avec. La première errance de l'homme a été Caïn, quand Dieu lui dit, mais maintenant tu vas sortir du paradis, du jardin d'Éden. Et Caïn dira, mais je suis malheureux parce que je vais être en errance. Ça, c'est la première errance. Et il a été l'initiateur, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont suivi. Tout le monde, toute la race humaine a suivi dans ce vagabondage d'un endroit à un autre. L'errance, à cause du mal et du péché. Imaginez-vous, je le dis et je le répète encore ce soir, si le péché n'avait pas existé, qu'est-ce que ça serait, hein? Et puis nous avons également le phénomène de Babel, dispersion des hommes comme des brebis qui n'ont pas de berger, et tout ça par orgueil. Nous atteindrons le ciel et nous nous ferons un nom qu'on n'oubliera jamais. Ah, on n'a pas oublié le nom de Babel, mais il a donné une société qui est une société anti-Dieu, contre-Dieu, anti-Christ. Et puis tout le long de la Bible, vous avez la fuite des hommes. Même les disciples, quand Jésus a été pris dans le jardin de Gethsémané, ils ont fui. Il y en a d'autres qui fuient. La fuite, leur dispersion sur la terre, jusqu'au peuple d'Israël, qui à travers toute son histoire a connu ce qu'on peut appeler la diaspora, fuyant d'un pays à un autre. Fort heureusement, Dieu a eu la compassion de ce pays sans berger, parce que le Messie est déjà venu, maintenant il faut qu'il le reconnaisse. Mais la diaspora, c'est la dispersion de tous les Juifs dans le monde entier, sur la terre. Et puis il y a les faux bergers aussi. C'est quand il est parlé du bon berger, il est parlé des faux bergers. Il nous est parlé des mercenaires dans l'évangile de Jean, dans l'histoire du bon berger, qui ne se mettent pas en peine des brebis qui les égorgent. Il y a Jérémie également, qui nous dit ceci, parce que c'est un réquisitoire contre les faux qui n'ont pas été envoyés par Dieu, mais qui se sont envoyés eux-mêmes, écoutez bien. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les bergers qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Que d'images dont Jésus s'est courroucé de voir les gens chassés du temple, vous comprenez? Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Méchanceté de vos actions qui est faite d'une manière religieuse, mais sans intelligence et non pas spirituelle. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront, ils auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice dans le pays. Celui-ci qui était attendu et celui-ci qui était nommé et attendu s'appelle ni plus ni moins celui qui a dit qu'ils n'ont pas de berger. C'est lui le berger, le bon berger. Mais il y a eu aussi des faux prophètes. Il y a eu aussi de faux docteurs. C'est tout ce qui nous est dit à travers toutes les épîtres du Nouveau Testament. Mise en garde perpétuelle, permanente. Et même l'Église de Dieu d'aujourd'hui. Même l'Église évangélique, quelquefois, est soumise à cette pression. Il faut bien dire, et il faut le proclamer, ça fait partie de l'enseignement fondamental et de la prédication essentielle, c'est Jésus qui est sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par lui. C'est lui, le meilleur des pasteurs, le meilleur des enseignants, ne reste un homme. Et quand on voit l'engouement, même peut-être des chrétiens nés de nouveau, qui courent de ci, de là, parce que finalement, eh bien, ils se disent, si Dieu ne répond pas, si Dieu ne fait rien, eh bien, moi, je vais vers celui-ci et celui-là. C'est une erreur monumentale. C'est Christ, et Christ seul. C'est lui qui peut combler. Puis je termine sur une chose. Pourquoi les guerres et le mal dans le monde? Eh bien, tout simplement parce que des hommes ressemblent à des troupeaux qui n'ont pas de berger, et quand les hommes n'ont pas de chef, quand les hommes n'ont pas d'autorité, autorité morale et spirituelle, spirituelle avant tout le reste, eh bien les hommes qui ont faim de vérité, de justice et de toute autre chose, des hommes, un monde qui est affamé, eh bien vous savez ce qu'ils font, ils se battent entre eux. Ouais. Pour convoiter ceci, pour convoiter cela, et ça c'est terrible. Quand il y a une autorité dans un pays, un roi ou un président, un gouverneur, juste, comme il y en a eu dans l'histoire d'Israël. Pas toujours, mais quand même. Et quand il y a des hommes qui sont des hommes d'exception, nous les voyons à travers la Bible. Je pense à Néhémie, à Esdras, et puis à David, et puis etc., etc. Quand la paix règne, quand l'unité règne, c'est un troupeau qui vit paisiblement et qui vit uni. Vous savez, quand les loups ont faim, ils se déchirent. Et le monde allait chercher plus loin les raisons de tout ce qui se fait, de toute cette exploitation, de toutes ces choses éhontées qui sont dites et faites, c'est parce que finalement, eh bien, les hommes ont faim. Et la seule réponse, c'est la parole de Dieu, c'est le message de l'Évangile, qui va faire que les hommes, au lieu de se disperser, au lieu de fuir, au lieu de raconter n'importe quoi ou d'être inspirés par n'importe quoi, se cherchant un maître, on l'a chanté il y a un instant, un hypothétique maître. Alors à ce moment-là, quand ils ont trouvé le vrai maître, quand ils ont trouvé le vrai chef, quand ils ont trouvé le vrai sauveur, parce qu'il n'y en a pas 36, hein, le vrai Seigneur, alors les choses changent de nature. Alors à combien plus forte raison dans une église, hein? Ouais. Si Christ et le Saint-Esprit règnent au milieu de nous dans cette église, il va procurer la paix, il va procurer tout ce dont nous avons besoin, de vital, d'essentiel et de première nécessité pour que nous puissions être comblés et satisfaits, la paix, la joie et tout le reste. Alors, on replace Jésus à son centre. On appelle ça christocentrique, c'est-à-dire Christ au milieu, Christ étant le centre. Et ça fait tomber pas mal de barrières. Alors, chacun d'entre nous avons besoin d'y réfléchir à cette parole. Et Jésus, ému de compassion, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Heureusement, et je termine sur cette note, des hommes et des femmes par millions ont découvert qu'en Jésus, eh bien, ils avaient le salut, ils avaient la promesse de la vie éternelle, Et même si la vie n'est pas toujours facile, même si nous avons des combats et des luttes, et que nous en aurons jusqu'à la fin, nous savons que nous avons avec nous, eh bien, le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu nous bénisse à travers cette parole ce soir, et répondons à son appel. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu as bien voulu, en effet, Père éternel, faire la démonstration simplement avec des paroles toutes simples, que le monde, lorsque nous le regardons, lorsque nous étions nous-mêmes, Seigneur, perdus et égarés, dans une profonde errance, Seigneur, cherchant qui, où et comment, eh bien, Seigneur, tu t'es fait connaître à nous. Et c'est vrai, Seigneur, que les nations, les peuples, les foules d'hier ou d'aujourd'hui sont les mêmes. Il y a là une faim inimaginable. Ils ont soif. Alors, Seigneur, tu es venu véritablement pour leur donner l'eau de la vie. Oui, Seigneur, dans laquelle ils vont pouvoir se désaltérer et trouver, Seigneur, au plus profond d'eux-mêmes, parce que ce n'est pas l'extérieur qui va répondre à nos questions fondamentales. Mais c'est parce que nous allons nous approcher de toi avec notre cœur, et que par notre cœur, eh bien, en effet, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour ta compassion. Ça veut dire tout simplement que tu souffres de nos souffrances, que tu portes nos peines, que, Seigneur, tu comprends nos interrogations et nos perplexités, et tu y apportes réponse. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander que tu nous donnes de la modestie et de l'humilité pour nous approcher de toi, comme ce petit peuple d'Israël qui n'avait rien à perdre. Mais quand ils ont entendu tes paroles, alors ils ont tout gagné. Merci Seigneur, parce que tu pourvois nos besoins physiques par la multiplication des pains, comme nous l'avons vu. Mais tu pourvois, Seigneur, à nos aspirations les plus enfouies, Seigneur, dans nos âmes. Et puis également, tu fais vivre notre esprit. Alors merci, tu bénis chacun d'entre nous. Et tu bénis tous ceux et celles qui lisent ta parole, qui méditent ta parole, et qui, après avoir médité ta parole, comme nous le faisons en cet instant, eh bien te prie. Et te dis, Seigneur, eh bien, tu es mon bon berger, tu es mon berger, le berger de mon âme, le berger de ma vie. Eh bien, qu'il en soit ainsi, et nous n'allons pas manquer à un moment ou un autre de savoir que tu es beaucoup plus proche de nous que nous ne l'avons peut-être jamais imaginé. Merci, notre Dieu, bénis ta parole ce soir, et suscite, Seigneur, la foi au fond de nos cœurs. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.